Bonjour, Madame la doctorante.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Laurence, qui est arrivée de New York fin novembre, qui est allée là pour ses études. Vous êtes partie, quoi, deux mois et demi?
Deux mois.
Vous vouliez comparer l'accessibilité entre New York et Montréal par vous-même et également en interviewant des gens qui connaissent les deux villes ou pas nécessairement?
Non, en fait... En fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées ou presque n'avaient jamais été à Montréal, donc sont vraiment des gens qui connaissent leur ville.
Et qu'est-ce que vous vouliez vraiment savoir?
Ben, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir le lien entre un meilleur environnement physique, là, l'accessibilité, une meilleure accessibilité, puis la façon dont les gens, dans le fond, vivent leur expérience en ville. Là.
Ouais.
Est-ce que les gens sentent qu'ils font plus partie de leur ville lorsqu'ils ont accès, par exemple, aux transports en commun ou aux différents lieux publics?
Mais en même temps, Laurence, tout ça est arbitraire en ce sens... Tout dépend, disons, d'où ils viennent, ce qu'ils ont connu dans le passé. Je veux dire, quelqu'un va peut-être avoir moins que l'autre et s'en satisfaire davantage.
Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ce qui est intéressant aussi. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi plusieurs perspectives sur ces questions-là. Puis on entend beaucoup, par exemple, à Montréal, pendant plusieurs années, je milite encore pour une plus grande accessibilité, puis on a comme un discours disant, bon, l'accessibilité universelle, c'est notre objectif, que si on atteint ça un jour, ben les problèmes vont être pas mal réglés.
Ouais.
Mais dans le fond, c'est ça, on est tous très différents, puis dans le fond, on vit plusieurs formes de discrimination aussi, là, quand on parle à une personne... Par exemple, d'origine hispanophone, dont la famille est très pauvre, c'est pas la même chose que lorsqu'on parle à quelqu'un qui vient d'une famille riche, blanche. C'est pas du tout la même réalité, puis je trouve ça important, dans le fond, de donner une voix à ces personnes-là.
Votre réseau, parce que je présume que ce soit par le biais de professeurs, de contacts, de pages Facebook... votre réseau, vous qui êtes militante, bon papier en passant dans le... C'était le Devoir jeudi dernier, je crois.
Oui, avec Marie-Ève Veilleux.
Oui, c'est vrai. Votre réseau est probablement des gens militants, ce qui fait qu'ils seront peut-être un petit peu plus critiques, un peu plus pressés. Est-ce que vous avez pu avoir, justement, des nuances?
Oui, parce que même parmi les gens... qui s'impliquent ou qui sont plus intéressés, c'est pas tout le monde qui a les mêmes positions. Hein. Tu sais, il y a des gens que j'ai interviewés qui, par exemple, sont satisfaits du transport adapté, même s'ils sont engagés dans certaines associations,
ouais.
Alors que d'autres ne le sont pas.
OK. Vous n'avez pas commencé les entrevues à Montréal.
Non, pas
mais
encore.
Vous avez quand même une idée du pouls, en général.
Du où?
Du pouls.
Okay.
Oui. Est-ce que vous sentez, sans avoir toutes les précisions, qu'il y aura une différence en bout de ligne entre la perception new-yorkaise et montréalaise?
Je crois que oui. Je crois que ça va être très intéressant. Mais pour moi, de faire ça, en fait, ça m'a permis aussi de prendre un certain... pas un recul, mais parce que dans le fond, dans mon travail... évidemment, j'ai une position, je suis activiste, mais il faut également que j'apprenne à vraiment écouter les gens avec qui je parle. Puis aussi, un truc qui est très important dans la recherche, c'est que la neutralité, ça n'existe pas vraiment.
Ouais.
Donc, c'est vraiment des conversations avec les gens que je fais. Puis moi, en tant en fond qu'étrangère à New York, c'était très différent. Parce que je connais pas du tout la réalité. À Montréal, je la connais mieux. Donc, les discussions vont être différentes, évidemment. Mais en même temps, non, c'est sûr que le langage n'est pas le même. Hein, pour parler notamment de discrimination, on n'utilise pas les mêmes concepts. L'histoire est très différente. Le lien avec le milieu aussi est très différent.
Ouais, ouais.
Aux États-Unis, le milieu n'est pas aussi organisé qu'ici. Ici, à Montréal, c'est très fort. Il y a des organisations qui sont très présentes, qui ont des liens très, très, très proches avec la ville, avec différentes instances, tandis qu'à New York, c'est un peu plus... c'est moins organisé.
Et pourtant, vous me disiez quand même, lorsqu'on s'est parlé mercredi que les bus sont très accessibles, qu'un quart des stations de métro le sont, donc moins de chiens de garde, mais quand même plus de résultats.
Oui, ben en fait, les chiens de garde peut-être différents, dans le sens où un chien de garde est une loi qui ça, de toute évidence, a plus de mordants qu'au Québec, ça c'est évident.
Ouais.
La façon aussi, juste l'organisation de la société. C'est je veux dire, les États-Unis, le Québec, c'est quand même deux mondes, là, au point de vue de qui s'occupe de quoi dans la société, là. C'est complètement différent. J'ai rencontré beaucoup d'artistes qui sont très impliqués pour, dans le fond, lutter contre les représentations discriminatoires des personnes handicapées. Donc, à travers l'art, ça, c'est un mouvement... Il y a des choses aussi qui se font évidemment à Montréal, mais ça me semble moins organisé, dans le sens la communauté semble moins organisée entre elles. Qu'à New York, où là, il y a vraiment un fort réseau, où je suis allée dans des événements où il y avait vraiment... où la communauté se mobilisait beaucoup pour ça.
Vous avez, bon, vous parlez souvent d'accessibilité. Est-ce que votre questionnement allait également du côté de l'employabilité, du côté de, je sais pas moi, l'accueil social en général?
Oui, c'est sûr. Dans le fond, ce qui m'intéressait, c'est le sentiment d'appartenance. Mm-hmm. Puis quand on commence à parler de ça, dans le fond, on peut parler de tout. Parce que la personne, est-ce que... Si elle n'a pas les services chez elle, à domicile par exemple, ben la ville aura beau être très accessible, elle ne pourra même pas sortir de sa maison pour en profiter. L'emploi aussi, c'est un enjeu important. J'ai parlé avec des gens aux États-Unis, c'est beaucoup ça, j'ai l'impression, il y a comme vraiment des extrêmes. Il y a des gens qui ont été très privilégiés, qui ont pu bénéficier notamment de la loi sur l'accessibilité, des programmes comme ça, avec un bon réseau social, qui ont puis se trouver un emploi, et d'autres gens complètement défavorisés, complètement mis de côté, pour qui la vision libérale des choses aux États-Unis, qui est comme bon, on a des lois, puis tout ça, le système vraiment légal, mais pour eux, ça répond pas à leurs besoins.
Si tout allait vraiment bien, vous espériez interviewer une vingtaine de personnes. Si vous aviez à revenir déçu, ça aurait été avec 15 personnes. Vous avez dans vos bagages 16 entrevues. ça a été difficile ou pas?
Ça a été difficile, ouais, au tout début parce que je connaissais pas beaucoup de personnes. On peut vite se sentir intimidé dans une grande ville, ouais, comme New York. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et moi, où j'étais, ben, j'avais choisi d'habiter dans le cœur de la ville en me disant que je vais pouvoir me déplacer plus facilement, je vais être plus proche des gens. Mais dans le fond, ça coûte tellement cher de vivre à New York que j'ai été frappée de ne pas avoir vu autant de personnes handicapées avec des handicaps visibles que j'aurais pensé.
La recherche sera remise quoi, l'hiver 2016?
Oui, le produit final, oui.
Parce que c'est ça qui va nous intéresser. Là. Il va falloir rendre ça public.
Reparler.
Absolument, absolument. Merci beaucoup, Laurence Parent, d'avoir partagé l'expérience.
Ben merci.